Disparitions inquiétantes, témoignages de phénomènes paranormaux et mystères irrésolus d'Internet. Ce sont les sujets qu'aborde le jeune youtubeur et musicien Feldup. De son vrai nom Félix Dupuis, ce vidéaste de Franche-Comté a su attiser la curiosité des internautes en quête de questions sans réponse, jusqu'à atteindre aujourd'hui le seuil des 1 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. À seulement 15 ans, Félix réussit le défi de proposer un contenu porté sur la narration de l'horreur tout en captivant l'auditeur, ce qui nous rappelle les soirées passées entre amis à se faire peur au coin du feu. Ses enquêtes et ses analyses vidéo nous renvoient au style des plus grands romanciers du mystère, comme Agatha Christie et Arthur Conan Doyle, mais remis au goût du jour. En dehors des phénomènes inexpliqués, Félix se passionne également à la composition musicale, notamment la manière où l'on peut véhiculer des émotions et des histoires singulières à travers la musique. Son désir d'expression sonore le pousse à composer de nombreuses créations en solo et d'entreprendre une tournée en 2024 pour faire découvrir à la France entière son dernier album intitulé Stare That From a Distance. De passage à Nantes le jeudi 25 avril 2024, j'ai eu la chance de le rencontrer et de lui poser des questions sur son parcours vidéo et musical, mais également de m'intéresser au thème de sa dernière enquête vidéo portant sur un phénomène musical autour de la distorsion des enregistrements sonores, appelé la Lost Wave. Bonjour Feldup, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous accompagner tout au long de cette interview exclusive sur Sun, le son unique. Est-ce que tu vas bien ?
Oui.
En cette soirée du jeudi 25 avril 2024, nous nous trouvons actuellement dans un lieu très côtoyé de la scène musicale nantaise puisqu'il s'agit de Stéréolux. C'est dans cette salle de concert que tu as décidé de te produire ce soir. C'est la première fois que tu viens à Nantes ?
C'est pas la première fois du tout que je viens à Nantes. C'est une ville dans laquelle je vais assez régulièrement parce qu'il y a des gens que je connais que j'aime bien ici et c'est une ville que j'aime beaucoup.
Tu as eu le temps de faire quoi que ce soit avant ta tournée ?
Pas pour l'instant. On passe dans les villes très rapidement. En général, on n'a pas le temps vraiment de visiter. Nantes, on n'y fait pas exception, quoi.
Alors donc, tu es ici dans un contexte particulier puisque tu es en tournée dans toute la France dans le cadre de la sortie de ton dernier album nommé Stare That From a Distance que tu as réalisé en novembre 2023. Un album que beaucoup qualifient de rock indé intense et émotionnellement chargé. On compare souvent ton expression musicale à celle de Radiohead. Mais toi, comment tu qualifierais ton style de musique à nos auditeurs qui te découvrent aujourd'hui ?
C'est un style qui est très introspectif, un peu lo-fi, donc enregistré avec les moyens du bord, hein, c'est entièrement autoproduit. Donc oui, en effet, Radiohead, c'est une grosse influence, mais aussi et surtout Car City Rest. J'ai envie de ramener un côté un peu slacker, un peu distordu et très brut. Et c'est aussi un album très personnel, ouais, donc je trouve que le côté très sous-mixé, très brut du son marchait bien. Ouais.
Est-ce que tu pourrais présenter les membres de ton groupe qui t'accompagnent durant cette tournée ?
C'est un groupe que j'ai recruté donc pour cette tournée autour de 2021. Donc on a Rebecca à la batterie, on a Lumna à la basse, Pierrot à la guitare rythmique et Alex à la guitare soliste, je crois. Je sais pas trop comment le définir, mais guitare 1, guitare 2, quoi. Et voilà, on est 5 sur scène et moi je chante. On est assez nouveau, pour chacun c'est nos débuts sur scène, mais c'est une super expérience et on est très très contents.
Oui, parce que ça fait pas longtemps que tu as commencé cette carrière musicale finalement.
La carrière musicale en soi, je compose depuis que je peux toucher des instruments de musique, donc depuis très longtemps. Mais la partie concert en live, c'est arrivé d'un coup. Il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu le moment où on fait des petits concerts dans des bars, etc. Il y en a eu très très peu. On est passé d'un coup de jouer devant zéro personne à 400, sans la moindre transition. Du coup, on doit un peu apprendre sur le tas, c'est un peu stressant. On va apprendre beaucoup de choses très vite, mais on se débrouille bien, quoi.
Alors Feldup, tu es musicien, mais pas que. En parallèle de ta carrière musicale, tu réalises de nombreuses vidéos sur YouTube. Et c'est quelque chose que tu as entrepris très jeune, dès l'âge de 11 ans. Ce que tu abordes dans tes vidéos, ce sont principalement des mystères, des faits divers et des légendes urbaines nées d'Internet. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui ta chaîne YouTube captive autant d'abonnés, c'est surtout que tu prends plaisir à enquêter et proposer des analyses sur ces mystères qui fascinent les internautes. Quelles ont donc été les motivations pour te lancer sur ce genre de contenu ?
Il faut savoir que j'ai toujours été intéressé par ce qui est mystérieux. J'ai toujours trouvé que la frustration du mystère, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et très vite, moi, quand j'étais jeune, parce que j'étais très seul, je me suis un peu enfermé sur Internet. J'ai été très vite exposé à pas mal de trucs, des trucs géniaux, des trucs moins cool. Et j'ai notamment des souvenirs très précis d'être sur YouTube, de regarder des vidéos en 2009, 2010, j'étais tellement jeune, des vidéos de fantômes en qualité abominable. Mais ça m'a, tout ça, ça a créé un univers un peu dans ma tête, un univers de l'horreur, de ce à quoi doivent ressembler les choses qui me font peur. Et lentement, ça a arrêté de me faire peur et ça a commencé à me fasciner, notamment quand j'ai découvert les creepypastas vers 2012-2013, des légendes urbaines qui se partageaient beaucoup sur Internet, écrites parfois un peu avec les pieds, mais qui avaient quand même un charme de fou furieux. Et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé ma chaîne, c'est juste en lisant des creepypastas que je trouvais sur Internet, donc ces récits, ces légendes urbaines trouvables sur Internet, souvent qui ont un lien avec la pop culture. C'est en les lisant donc en vidéo que j'ai commencé à rentrer dans ces sujets-là. Et lentement, juste l'étrange d'Internet a commencé de plus en plus à prendre de la place dans ma tête, dans mes intérêts. J'ai commencé à m'intéresser aux ARG, notamment quand j'ai découvert Marble Hornet, une web-série à l'époque, qui parlait justement d'une creepypasta, le Slenderman, et lentement, j'ai été de plus en plus fasciné par tout ça. Quoi.
Est-ce que c'est quelque chose qui a animé ton inspiration musicale aujourd'hui ?
Alors, oui et non. Faut savoir que j'ai commencé à être très intéressé dans la musique et la composition de musique et le fait de créer de la musique quand j'ai découvert le groupe Boards of Canada. Je l'avais découvert justement parce que c'était un groupe qui était très mystérieux, un peu étrange, avec un son très particulier, des gens très mystérieux derrière, qui cachent des messages subliminaux dans leur musique, des trucs comme ça. Donc c'est un peu comme ça que je suis un peu tombé dedans. Mais après, mon intérêt pour la musique, il a toujours été très émotionnel, très présent. Et je dirais pas qu'il est lié tant à ça. C'est vraiment... C'est deux choses qui se séparent pas mal, que je fais en parallèle, c'est deux activités très différentes en réalité.
Alors Feldup, si je suis devant toi aujourd'hui, c'est d'abord pour présenter ton expression musicale aux auditeurs de Sun qui nous écoutent actuellement, mais aussi de faire le lien avec le thème de la chronique scientifique de ce mois-ci, qui porte sur l'histoire de l'enregistrement sonore et comment depuis le 19e siècle, nous avons su développer des supports pour stocker de la musique. Est-ce que par curiosité, tu sais un peu comment on en est arrivé à enregistrer des sons sur un CD ou une cassette audio ?
Je pense que ça part du parlophone et de gens qui essayent de transformer donc ces variations de pression de l'air, qui essayent de la marquer sur un support physique, donc je crois qu'avant c'était sur des bobines, et qui ensuite étaient relues à travers un système ingénieux, je crois, d'aiguilles, mais qui en gros transforme le marquage physique et qui essaye de le retranscrire au mieux possible dans l'air, quoi.
Oui, t'es très proche de ça, puisque les premiers appareils pour enregistrer de la musique, ça a été des graveurs, ça a été des stylets qui marquaient le papier d'un premier temps, ou de la soie de sanglier, jusqu'à des cylindres de cire et d'étain. Si je suis face à toi aujourd'hui, c'est parce que ta dernière vidéo parue le 30 mars 2024, qui a pour nom « Personne ne sait d'où vient cet enregistrement », recoupe notre thème d'aujourd'hui. Tu parles dans cette vidéo d'un phénomène d'internet qui a intrigué énormément de monde récemment. Un phénomène qui a poussé de nombreux internautes à entamer des enquêtes pour retrouver l'origine d'enregistrements inconnus et perdus dans la nature. Tout viendrait de la publication d'un utilisateur sur un site nommé What's That Song, qui cherchait à savoir si quelqu'un reconnaîtrait l'origine d'un extrait musical qu'il avait retrouvé sur un CD en fouillant dans son grenier. Et aujourd'hui, soit 3 ans après la publication, l'origine reste introuvable. Personne n'arrive à donner une quelconque information sur sa provenance. Déjà, ma première question, pourquoi avoir voulu se pencher sur ce mystère ?
Alors moi j'ai voulu me pencher sur ce mystère parce que depuis très longtemps je suis intéressé sur un sujet un peu plus large qu'on appelle les lost media. C'est tous les efforts de plusieurs personnes de retrouver des médias, donc des films, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des images, parfois des photographies qui ont disparu. Et il y a plusieurs raisons à pourquoi les gens font ça et pourquoi ça intéresse les gens. Déjà, il y a un côté un peu mystérieux, ce côté quelque chose d'extrêmement obscur était disponible et maintenant ça ne l'est plus. Pourquoi on n'arrive pas à le trouver ? Il y a aussi un peu un challenge, un côté Internet. On nous a dit tout le temps qu'on pouvait tout y trouver. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver certaines choses ? Et il y a aussi en fait beaucoup de gens qui sont intéressés par la nature un peu archivage, où des gens veulent absolument préserver la culture. Et faire en sorte que tout soit encore accessible, etc. Donc moi, je me suis penché sur ce sujet donc, parce que j'étais intéressé par les lost media. Et ça, c'est un type de lost media particulier où on possède un extrait, du coup, on a vraiment une promesse de quelque chose. Et moi, j'y ai vu quelque chose de plus, dans un peu cette mouvance de petit enregistrement un peu distordu de morceaux.
Petite précision pour le morceau perdu, il s'agit de cet extrait. Et ce qui est incroyable, c'est que le morceau perdu a été retrouvé le 28 avril, soit 3 jours après l'interview. Le titre s'appelle Ulterior Motives et a été composé par Christopher Booth en 1986.
J'ai vu que l'enregistrement lui-même était très distordu, très crade, et je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant. Est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on cherche ? Est-ce que c'est pas un peu parce que l'enregistrement lui-même est cassé ?
Oui, c'est ce qui est fou, c'est de constater que la majorité des enregistrements perdus, que l'on appelle en anglais lost media, sont des échantillons retrouvés sur des vieilles cassettes, des vinyles oubliés ou même des CD échangés de main en main et dont on a perdu la trace. Ce sont en majorité des morceaux composés entre les années 60 et 90, à une période avant le numérique où nous n'avions pas les mêmes avancées technologiques qu'aujourd'hui. Donc on peut y entendre des reliquats, des craquements de bruit et des tiraillements qui sont le témoin du temps qui s'écoule. Beaucoup d'internautes ont d'ailleurs pris du plaisir à écouter ces vieux enregistrements. Ils ont ressenti beaucoup de nostalgie. Et c'est ce qui a contribué à faire naître un nouveau genre de musique appelé la Lost Wave. Pour nos auditeurs qui découvrent ce terme aujourd'hui, comment définirais-tu la Lost Wave ?
La Lost Wave, au début, ça paraît difficile de la définir comme un genre musical, mais c'est le son de morceaux obscurs qui ont été oubliés. Et qui ont donc des marques du temps qui s'expriment à l'intérieur de l'enregistrement, que ce soit donc par des imperfections dues à un CD qui s'est cassé, que ce soit une cassette qui s'est abîmée avec le temps, une bande qui s'est un peu démagnétisée, que ce soit un fichier MP3 qui s'est compressé, puis recompressé après avoir été reposté en boucle sur Internet. C'est donc un genre musical qui s'exprime à travers ça, et c'est également un genre musical qui est composé souvent de très petits morceaux de musique, parce qu'en général, la chose qu'on a, c'est uniquement un extrait la plupart du temps, et c'est juste l'auteur qui manque et le morceau entier. Voilà, c'est en ça qu'on peut dire que c'est un genre musical, c'est comme ça qu'on pourrait définir la Lost Wave. C'est tous ces enregistrements perdus dans le temps, que des gens essayent de retrouver, qui ont été dégradés avec le temps.
Donc dans ta vidéo, tu as toi-même eu l'occasion d'expérimenter et d'en apprendre plus sur la manière dont on enregistre le son, car tu nous racontes que tu avais trouvé une vieille cassette audio dans un bois près de chez toi, et tu t'étais donné le défi de la refaire fonctionner pour voir ce qu'elle renfermait. Alors, spoiler, ça a fonctionné pour un court instant, mais ce qui nous intéresse, c'est que tu nous expliques ta démarche. Comment as-tu fait pour entendre la musique à partir d'une cassette en état de hors d'usage ?
Ah, c'était compliqué, c'était toute une soirée, ça. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, le morceau, les gens, ils ont réussi à trouver avec mon tout petit extrait, ils ont fini par trouver l'extrait du morceau, et c'était un morceau plutôt connu, donc c'est cool. Mais en gros, on avait une bande affreuse, remplie de terre, avec des fourmis à l'intérieur, c'était un cauchemar complètement horrible et rouillé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris que le support de la cassette était le problème, elle était craquelée. Du coup, on a cherché donc des manuels pour essayer de voir comment fonctionnait une cassette et comment la plupart des cassettes étaient organisées. On a retiré la bande, on a pris une autre cassette qu'on avait trouvée par miracle qui était intacte. On a enlevé la bobine et on a échangé les bobines concrètement. Je me souviens que les fourmis avaient bouffé un des bouts de la bande et du coup elle était sectionnée. C'était un désastre. Bref, on a vraiment fait avec les moyens du bord, mais à la fin ça a fini par fonctionner un peu. On l'a retrouvée entre temps, on sait où est la cassette maintenant, mais on aimerait bien l'écouter un peu plus et la donner à quelqu'un qui saurait faire mieux que nous.
Et du coup, pour la réassembler, tu as dû te renseigner un petit peu plus sur comment ça marche, la bande magnétique d'une cassette, pour pouvoir la reconstituer.
C'était plutôt sur la manière dont c'est organisé l'intérieur, où est-ce qu'on doit mettre les choses. Je sais qu'il y a un délire d'électromagnétisme. J'ai pu voir un endroit où il y a le capteur qui passe, mais sinon, c'est abstrait pour moi, quoi.
Alors, la tendance actuelle veut que les enregistrements qui commencent à vieillir soient remis au goût du jour. On voit partout des reprises ou des remakes haute qualité de classiques du XXe siècle. Est-ce que ça ne dénaturerait pas, selon toi, ce qu'est justement la Lost Wave ?
Pour moi, non. C'est juste humain de vouloir rendre quelque chose beaucoup plus clair et de remettre au goût du jour des choses. Des enregistrements de Lost Wave qui sont refaits et remasterisés pour sonner, en réalité, c'est plutôt l'expression de la créativité des gens. Parce qu'en réalité, chaque remaster, chaque réenregistrement sonne un peu différemment. Et en fait, c'est plutôt faire exprimer ce que les gens voient dans un morceau. Du coup, en soi, on garde le côté un peu flou de la Lost Wave, on garde le côté tout le monde peut voir le morceau de sa façon. Donc je trouve pas que ça dénature. Pour ce qui est des morceaux vieux, que ce soit des remasters de vieux albums des Beatles, moi je trouve que c'est bien, parce que ça remet des morceaux très vieux au goût du jour, et ça les rend beaucoup plus accessibles, avec des gimmicks de production qui sont beaucoup plus abordables pour des gens de notre génération. Je trouve par exemple que le remaster de 2019 des albums des Beatles, je crois, de Abbey Road, était vraiment tellement mieux que celui de 2009, avec un panoramique complètement tout dans l'oreille gauche, tout dans l'oreille droite. Ils ont un peu corrigé ça, et ça par exemple, ça va permettre à des gens de mieux pouvoir écouter des musiques qui autrement n'auraient pas forcément été autant écoutées, quoi. Walk this way.
Finalement, la Lost Wave, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Dans la première partie de ma chronique, j'ai parlé de l'inventeur Scott de Martinville, un Français qui, en 1860, avait réussi à retranscrire graphiquement le son à partir d'une machine appelée phonautographe. Le son était donc une trace laissée par les vibrations d'un stylet sur la soie de sanglier. On pouvait capter le son, mais nous ne pouvions pas le lire à l'époque, et donc la musique avait été perdue. C'est récemment que les scientifiques, avec les moyens actuels, ont pu régénérer le son et le rendre public. Est-ce que cela rentrerait dans le genre que tu définis Lost Wave ?
Je pense pas que ce serait de la Lost Wave, ce serait plutôt du Lost Media. La Lost Wave, l'élément qui est important, c'est que justement on possède un enregistrement qu'on peut entendre, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il est complet, et on ne sait pas qui l'a fait. C'est plutôt une recherche de remise en contexte d'un enregistrement sonore. Là, c'est plutôt du lost media. C'est quelque chose qui est perdu, qu'on ne peut pas écouter, auquel on aimerait avoir accès. La différence entre les deux, c'est que dans le lost media, le média n'est pas disponible, mais on sait qui l'a fait et on sait d'où il vient. La Lost Wave, le média est disponible, mais on ne sait pas d'où il vient. On ne sait même pas encore s'il est entièrement disponible en réalité.
Dans une autre de tes vidéos, tu parles d'un autre genre sous-jacent que tu nommes Liminal Wave. Ce terme, tu l'aurais défini à la suite de l'écoute d'un album, Everywhere at the End of Time, produit par The Caretaker, et qui avait pour but de décrire au travers de la musique l'expérience d'oubli et de confusion lorsqu'on est atteint de démence. Cet album aurait été ta source d'inspiration pour réaliser un album, Man in the Abyss, en 2021. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu en es venu à connaître The Caretaker, d'aller jusqu'à faire une vidéo à ce sujet, et de même réaliser un album en t'inspirant de ça ?
Il y en a deux, c'est même A Season in the Dark, Bottomless Trench, le deuxième. En vrai, le terme Liminal Wave, c'est moi qui ai essayé de l'inventer. Avec les gens, on a essayé de créer un genre musical. C'était une petite expérience. Il faut savoir que cet album de The Caretaker, à l'époque, ça avait été vraiment un phénomène. Everywhere at the End of Time. Le concept était assez brillant. C'est en réalité un album de ce qu'on appelle le genre musical de Plunderphonics, qui est un genre musical qui utilise beaucoup de samples, donc de l'échantillonnage en français, c'est-à-dire des extraits d'autres musiques qui sont assemblés pour créer quelque chose de nouveau. Et là, The Caretaker, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre plein de vinyles datant d'il y a très longtemps. Souvent des genres musicaux tels que le big band ou alors du jazz ou des performances de piano. Et il va les rendre très distants, très distordus et donner l'impression un peu qu'on écoute un très vieux souvenir d'une très vieille personne. Au fur et à mesure que les albums avancent, les sons deviennent de plus en plus dégradés jusqu'à devenir des collages sans le moindre sens. Et cette expérience d'écouter ces 6h30 d'album, c'est quand même très long, elle est vraiment très intense, elle est viscérale. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos réactions où ils ont une expérience un peu profonde en écoutant ça, parce qu'on entend un peu la dégringolade de l'état d'une personne mis sous effet sonore. Et moi, ça m'a énormément touché, ça m'a beaucoup inspiré, et j'ai vu beaucoup de gens reprendre le concept de The Caretaker, prendre des vieux morceaux, les ralentir et finalement les transformer en ces sortes de collages ambiants, avec un son toujours très cassé, distordu, un peu sale, un peu terreux. Et je me suis dit qu'il y avait un genre musical qui était en train de se créer, et je me suis dit, je vais essayer de faire des morceaux similaires, voir si je peux exprimer quelque chose de différent avec. Donc j'ai cherché quelque chose que je voulais exprimer de personnel, et j'ai essayé de le faire avec un collage ambiant, et en fait, j'ai fait genre 30 morceaux. Et je me suis dit très vite qu'il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait quelque chose de fascinant, et du coup j'ai fait une vidéo pour dire aux gens « Hey, n'essayez pas un petit truc là vite fait ». J'ai jamais refait de retour sur ça, et un jour je le ferai peut-être, mais c'était assez cool quoi.
Alors oui, du coup, cette Liminal Wave, est-ce que tu l'as contrée parmi ce genre ? Est-ce qu'on peut les associer les deux ?
Je pense pas. Il y a des éléments qui se rejoignent, notamment cet amour de la destruction du son. Ce qui manque, c'est le côté vraiment perdu et l'aspect recherche derrière la Lost Wave. Parce que le côté genre musical de la Lost Wave vient aussi avec une classification. C'est aussi la classification de est-ce qu'une musique est disponible. Donc, ils se rejoignent dans la raison pour laquelle elle fascine les gens. Par contre, elle reste quand même très séparée.
Tu livres un message très émouvant à la fin de ta vidéo. Selon toi, la Lost Wave, c'est des œuvres qui s'expriment dans un vide inidentifiable, des morceaux dont l'auditeur choisit l'identité, des morceaux qui tentent de résister au temps, à l'oubli, et qui donnent l'impression qu'ils proviennent d'une autre dimension où les choses sont mieux. En t'écoutant, on a l'impression que les enregistrements sont d'un passé lointain et sont la réflexion de nous-mêmes qui essayons de nous affirmer et d'avoir un impact dans le temps. Est-ce que c'est une philosophie que tu partages aussi, et est-ce que c'est quelque chose que l'on peut ressentir à travers ta musique ?
Je dirais, ouais, que la Lost Wave, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, un peu touchant, en effet. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sentiments très nostalgiques, un peu douloureux, étonnamment, associés à cette musique, alors que souvent, c'est des musiques très positives. Et en fait, les gens, ils voient un reflet, en effet, de plutôt un sentiment, c'est un mal très fort, de vouloir revenir à un passé qu'on n'a pas connu. Un autre endroit où ça va beaucoup mieux. Et il y a aussi un peu un vide qui arrive très vite, parce qu'on sent aussi un peu de tristesse, l'envie de rejoindre le monde où ces choses sont là. Voir des choses s'exprimer dans un vide, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je trouve qu'aujourd'hui, l'art est indissociable du concept d'artiste et je trouve que c'est souvent une erreur. C'est important de savoir qui est l'artiste. Par contre, je trouve que le point de vue de l'artiste sur son œuvre, son interprétation d'une œuvre, prend trop de place aujourd'hui et laisse peu de place à la mort de l'auteur. Et là, c'est des morceaux, donc du coup, où il n'y a que la perception des gens qui est importante. Par exemple, le morceau dont je parle dans ma vidéo, encore aujourd'hui, personne ne sait quelles sont les paroles exactes. Les gens sont vraiment pas sûrs de ce que c'est concrètement. C'est hyper intéressant. Les gens y voient finalement exactement ce qu'ils veulent. Je sais pas si ma musique a vraiment beaucoup de similitudes avec cet élément de la Lost Wave. Je trouve justement que c'est des morceaux qui essayent d'exorciser un passé difficile pour espérer un meilleur futur. C'est justement des morceaux qui souffrent du présent et qui espèrent un autre endroit. Et en soi, la Lost Wave idéalise un passé qu'elle connaît pas et l'assimile à un endroit très différent.
En fait, ce que tu racontes, c'est que des personnes vont voir des extraits des années 80, ils n'ont jamais vécu cette période et pourtant ils ressentent ce mal, cette impression que c'était mieux avant. Est-ce que c'est en fait ça la nostalgie ?
C'est la nostalgie, mais c'est aussi un peu un reflet des peurs de ma génération et de la génération qui va arriver. Cette impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans le futur. Et ma génération a un regard très étrange sur les années 90, 80, 70 et même maintenant un peu les années 2000. Ce côté un peu de c'était une période insouciante où les gens faisaient n'importe quoi et ne s'en rendaient pas compte. Et maintenant on s'en tape les conséquences et on a un peu envie par égoïsme d'avoir voulu faire partie de la fête, quoi.
Merci en tout cas pour ces réponses. Avant de nous quitter, tu peux nous parler un peu de tes projets futurs au niveau de ton groupe, de ta tournée, peut-être d'autres albums ?
Bah, on a plein de dates de concerts qui arrivent, hein, donc qui sont toutes disponibles et visibles sur Internet. Ça se remplit, là, notamment le 28 mai, on a la laiterie à Strasbourg. Niveau projet futur, bah, moi, juste, je vais continuer de faire de la musique, cette fois-ci peut-être composer avec mon groupe au lieu de composer tout seul. Et aussi, surtout, continuer à faire des vidéos, en fait, continuer à faire ce que j'ai envie de faire tant que les gens me le laissent le faire.
En tout cas, n'hésitez pas à aller écouter le dernier album de Feldup intitulé Stared at from a Distance et à vous abonner à sa chaîne YouTube. Vous pourrez réécouter cette interview en replay de cette chronique et en version intégrale sur le site et l'appli de Sun. Je vous laisse avec le titre Waters de Feldup, sorti en septembre 2023. Et je vous retrouve très bientôt sur Sun, le son unique pour une autre recette.
Shriek that holds like a drone.